Bonjour, bonjour à tous. Le prochain rendez-vous avec les infos, ce sera à la demi sur votre radio locale. Et d'ici là, vous écoutez votre magazine du 421. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler de l'or rouge. L'or rouge, le safran cultivé dans cette région depuis le Moyen-Âge. De la production à la consommation, mes invités du jour nous éclaireront sur les différentes facettes qu'offre cette plante et sur l'histoire dans la région et particulièrement à Mihars. Avec moi dans le mag aujourd'hui, Ève Bois-Martel, qui est une productrice de safran installée à Montredon, la Bessonnier. Clément Kravchenko, qui lui utilise le safran dans sa boutique Bubble Tea dans les hauteurs de Cordes. Et puis on retrouvera par téléphone Corinne Blaquer. Corinne qui fait partie de l'AGIT. L'AGIT, c'est l'association des guides interprètes du Tarn, qui organise une manifestation autour du safran ce week-end, c'est samedi. C'est du côté de Mihars, mais pour l'heure, je vous propose de faire un tour par la boîte à musique de CFM. On va écouter un petit peu de musique. Ce sera Muse qui va nous emporter avec Feeling Good.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
Bonjour, si vous nous rejoignez, vous êtes dans votre magazine des actualités culturelles associatives du 421. Aujourd'hui, je reçois Ève Bois-Martel, Clément Kravchenko qui sont avec moi en studio. Bonjour messieurs et dames.
Bonjour.
Merci à, déjà à vous deux de vous être déplacés pour venir dans les studios de CFM parce que l'un comme l'autre, vous avez laissé vos activités professionnelles pour venir nous éclairer sur l'utilisation et la culture du safran.
Absolument.
Ève Bois-Martel, productrice de safran à Montredon-la-Bessonnier. Avec vous, nous allons plutôt aborder la production de safran. Nous retrouverons dans la seconde partie l'ami Clément Kravchenko du Bubble Tea, la boutique de cocktails sans alcool, située dans les hauteurs de Cordes-sur-Ciel. Et puis par téléphone, nous aurons Corinne Blaquière, qui est membre de la GIT et qui organise le samedi 25 octobre à partir de 14h30 une visite de Millars à travers l'histoire de ce village médiéval et du safran. Ève, actuellement, l'exploitation de safran est en effervescence. On Absolument. Est au cœur de la récolte de cette plante-là.
Oui, mais heureusement, ce matin, il n'y avait pas beaucoup de fleurs. Je pense que le coup de froid les a un petit peu crispées.
Oui.
Donc, elles seront plus nombreuses demain. Donc, ça m'a permis de quand même faire le déplacement.
Le safran se plante plutôt c'est en été qu'il se plante?
Le safran se plante en été, oui. C'est un crocus à végétation inversée. Mm-hmm. Donc, il se plante en été et il fleurit en automne.
Donc, actuellement, donc, c'est la période octobre-novembre qui est la période propice à la récolte des fleurs de safran.
Exactement. Le safran fleurit en ce moment.
De la plante, on n'utilise pas tout, c'est la fleur. Hein.
Alors, le safran, c'est le pistil de la fleur, précisément.
Oui. Hein,
donc, c'est l'épice, c'est le pistil. Le reste de la fleur n'est pas aromatique.
C'est récolté maintenant. Ensuite, on va récolter donc ce pistil-là, c'est à la main que ça
voilà,
se récolte.
Voilà, donc chaque matin, on cueille les fleurs qui sont sorties au petit matin. Ensuite, on va s'asseoir parce que le plus long commence. Finalement, ce n'est pas la cueillette qui est le plus long, mais l'émondage, qui est la partie qui consiste à ouvrir la fleur, sortir le pistil, et couper sur chaque pistil toute la partie qui n'est pas le safran noble, qui n'est que du déchet, qu'on ne trouve que dans les safrans bas de gamme, en fait.
Et ensuite, ce pistil, il est mis à sécher?
Ensuite, on fait sécher le safran récolté et on lui fait perdre entre 80 et 85% de son poids.
À l'abri de la lumière, séché?
Alors, on le sèche au four. À une température très basse, hein, en principe pas plus de 50 degrés pour préserver tous ses arômes. Mmh. Et ensuite, on le met en pot et on attend qu'il gagne son arôme définitif puisqu'il y a un safran nouveau, c'est comme le vin. Donc au début, quand on vient de le sécher, il sent encore la fleur en fait. Il n'a pas tout à fait sa puissance d'épices qu'il va gagner en janvier-février.
J'ai lu qu'il faut à peu près 200 000 fleurs pour pouvoir produire un kilo de safran, c'est dans ces eaux-là?
Oui, tout à fait. Alors le kilo de safran, les safraniers en parlent peu, hein,
oui.
Parce qu'ils nous envoient pas souvent des kilos de safran. Les safraniers parlent en grammes et en mètres carrés, pas en kilos et en hectares. Et il faut entre 150 et 200 fleurs pour faire un gramme.
Que c'est très compliqué pour un safranier, on va dire, moyen d'avoir un kilo de safran sur une saison?
Je dirais même plus, je ne connais personne qui a un kilo de safran.
Ah ouais?
Non, non. Quelques menteurs ont un kilo de safran.
Ouais. Donc c'est vraiment l'or rouge, quoi, le
voilà.
Safran. Hein.
Nous, on a 15 000 pieds en terre. Mm-hmm. Et les bonnes années, je dis bien les bonnes années, nous faisons 400 grammes de production.
Ça fait combien de temps que vous produisez du safran dans la
région? Ça fait un gros 10 ans.
10 ans maintenant? Et votre exploitation, elle est sur... Donc vous parliez de combien de pieds?
Nous avons 15 000 pieds en terre, parce qu'en fait, on sait toujours ce qu'on plante, on ne sait pas ce qu'on a en terre.
Hein.
Donc, on compte toujours en pieds plantés. Donc, nous, on a une exploitation qui tient en moyenne hein, 15 000 bulbes, donc plantés. Après, ils se multiplient, donc on peut en avoir davantage. Et aussi, ils se font manger, donc on peut en avoir un peu moins. On sait toujours que ce qu'on a planté.
Et comment se déroule la récolte pour l'instant pour vous?
Pour l'instant, ça s'annonce plutôt pas mal. Hein.
La météo a été clémente avec vous?
En fait, on craignait le pire parce que avec le climat qu'on a eu cet été, on craint beaucoup le pourrissement des bulbes. Hein, parce que c'est un bulbe qui n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Et en été, il est en dormance, donc il n'a pas besoin d'eau en fait. Donc on était un peu inquiets et en fait, ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc nous, on a un terrain qui est très très drainant. Hein. On cultive en terrasse déjà, donc le fait d'être en terrasse assure un très fort drainage
oui.
au niveau de la terre. Et puis on a un terrain qui est un petit peu schisteux, donc il y a pas mal de petites pierres de schiste dedans qui font que en fait le drainage s'assure naturellement et on est bien content d'être dans ce biotope parce que en fait on évite bien des problèmes.
Très bien. Dans la deuxième partie. Non seulement on va voir vos circuits de commercialisation, comment vous commercialisez le safran que vous produisez, on va voir avec l'ami Clément l'utilisation qu'on peut avoir avec du safran. Là je vous invite à écouter ce que c'est ma chère.
Dans ces lèvres pour oublier la détresse d'un homme trop effacé. Tu sais bien qu'il n'y a rien à faire ici. C'est certain, les pour rien gagne la partie. Je parie que des fois tu te laisses aller et que rien ne peut t'arrêter. Je parie que des fois tu te laisses aller et que rien ne peut t'arrêter. Si je saigne et qu'il n'y a rien à faire, pas de soins ni de prière, s'il n'y a plus rien à faire. Couché à terre à subir l'ivresse, je vends tous mes efforts pour un vin de messe. Puisqu'il n'y a plus rien à faire chez toi, je compte jusqu'à trois et je me tire de là. Lendemain, mille feux, vas-y, fais ton souhait, fais ton vœu. Les dés sont jetés, j'ai perdu le jeu. Lendemain, mille feux, vas-y, fais ton souhait, fais ton vœu. Les dés sont jetés, j'ai perdu le jeu. Si je saigne et qu'il n'y a rien à faire, pas de soins ni de prière, s'il n'y a plus rien à faire.
La vie du pays cordé et du Tarn aujourd'hui dans votre magazine, une émission spéciale consacrée au safran avec Ève Boismartel qui est avec nous dans le studio pour parler de cette plante que l'on connaît très peu finalement. On sait que c'est un produit de luxe parce que ça coûte très cher, mais on sait peu de choses sur le safran, donc c'est actuellement que le safran se récolte. Et tout à l'heure en off, on parlait plus de votre exploitation, donc située à Montredan, à la Bessonnier. Sur le safran, on sait, la plupart des gens savent que le safran se récolte à la main, il faut enlever ses pistils, souvent la pince est épilée comme ça. Vous avez la particularité vraiment de tout faire maison, comme on dit, quoi.
Voilà, donc nous, tout est manuel, de la plantation jusqu'à la fabrication des produits. C'est-à-dire qu'aucune mécanisation n'intervient dans notre culture, ni dans notre dans la partie artisanale qui est la confection des produits.
Mmh.
Donc en fait, nous plantons le safran à la main, nous le désherbons à la main, nous le cueillons, nous l'émondons à la main, nous le transformons entièrement manuellement à la propriété.
Les transformations que vous faites, c'est quoi par exemple ?
Alors, nous fabriquons du sirop de safran, gelée de pomme, caramel de pomme, miel au safran, fleurs de sel safranées, des vinaigres de fruits diverses safranées, des confitures aussi. Et puis, nous vendons quelques bulbes pour les gens qui veulent faire un petit carré dans leur jardin.
Et qu'en est-il de la commercialisation des produits que vous faites ? Quel circuit vous privilégiez ? Des circuits courts, des coopératives ? C'est quoi votre...
Alors nous sommes vraiment dans le circuit ultra court, hein, c'est-à-dire vente directe. La plupart de notre commercialisation se fait en vente directe, c'est-à-dire nous faisons des marchés à thème, des foires régionales, par exemple la fête de la Yalotrek, des choses comme ça.
Mmh.
Des marchés de Noël comme celui de Castres. Nous faisons des marchés aux plantes aussi, hein, parce que c'est quand même une fleur, faut pas l'oublier. Et nous avons quelques autres circuits, mais qui sont beaucoup moins importants en quantité, comme les magasins de producteurs, qui renferment des produits issus uniquement de production fermière, comme les saveurs paysannes à Albi et la corbeille du Ségala à Rosières, à côté de Carmaux. Et puis quelques épiceries fines revendent nos produits aussi. Et puis il y a Clément.
Ouais, Clément qui est avec nous. Donc Clément, toi tu tiens une boutique ici à Cordes-sur-Ciel, cocktails sans alcool. Une partie des produits que tu proposes, il y a du safran.
Oui, donc en fait pour mes boissons, j'essaie d'utiliser au maximum des produits locaux et naturels.
Mm-hmm.
Donc j'ai eu la chance de rencontrer Eve et Yves qui m'ont donc présenté. J'ai passé une demi-journée sur l'exploitation, qui m'ont présenté un peu leurs produits. Donc j'ai été convaincu par la qualité de ce produit. Donc c'est vrai que le safran, ma boutique, ça me permet non seulement d'avoir un produit local, naturel et aussi noble, donc qui met entre autres en avant mes autres produits.
Et comment tu l'utilises toi actuellement, que ce soit dans tes boissons ou comment tu le proposes aux clients ?
Donc moi, le safran, je l'ai essayé un peu avec toutes sortes de cocktails. C'est vrai qu'il va très bien avec du jus de pomme, par exemple. Hein, un jus de pomme peu sucré, artisanal, conviendra parfaitement. Après, je l'ai essayé surtout, je trouve que le sirop de safran notamment, va aller très bien pour faire des plats sucrés salés tels que du magret de canard, des coquilles Saint-Jacques.
Donc ouais, parce que le safran a différentes vertus comme ça. On va en parler tout à l'heure des vertus médicinales, mais également dans la gastronomie, il y tient une place importante. Et c'est de là où il vient. Je crois que à la fois c'est une belle fleur, une épice délicate aux multiples propriétés. le safran est originaire du Cachemire. Donc Ève me dit que non. Alors.
Non, non. Le safran est originaire de Crète, en fait. Les plus anciennes traces,
oui.
Jusqu'à ce qu'on en trouve d'autres, évidemment,
hein,
parce que la science, c'est un éternel renouvellement. Mais aux dernières nouvelles, les plus anciennes traces du safran qu'on trouve actuellement sont en Crète, à Knossos, et à Santorin, où il y a des fresques qui datent de la civilisation minoenne, hein, qui est de 3500 ans avant Jésus-Christ, et qui représentent des cueilleuses de safran. Donc, on pense à l'heure actuelle que ce sont les Crétois qui ont hybridé des crocus jusqu'à créer celui-ci, puisque c'est un hybride, hein. Il n'existe pas l'état sauvage. Et à moins qu'une découverte...
que tu reviennes contredire cela.
C'est bien les Crétois qui ont inventé le safran.
Le premier producteur de safran au monde, c'est toujours l'Iran ?
Jusqu'à présent, c'est l'Iran, oui.
L'Iran, donc c'est quoi ? C'est 90% de la production mondiale
Je ne pourrais pas vous dire précisément, parce que bon, les productions réelles de safran sont très difficiles à savoir. Notamment, je suis assez étonnée qu'on nous dise régulièrement « il se produit tant de safran en France », alors que moi-même, on ne vient jamais me demander quelle est ma production. bon, l'Iran, c'est le plus gros producteur, parce que ce sont les seuls à avoir développé la chose, entre guillemets, industriellement, c'est-à-dire à avoir vraiment des laboratoires qui ne font que ça, etc. En France, ça reste une production fermière, disons.
Samedi prochain, nous serons le 25 octobre. L'AGIT, donc c'est l'Association des guides interprètes du Tarn, organise à partir de 14h30 une découverte du village de Mias au travers de son histoire avec le safran. Retrouvons par téléphone Corinne Blaquière, guide patrimoniale et membre de l'AGIT.
La vie des pays au son de la pop et du rock dans le Tarn. La vie des pays, CFM.
Bonjour Corinne.
Bonjour.
Samedi prochain, le 25 octobre, l'AGIT, l'Association des guides interprètes du Tarn, propose de découvrir l'histoire du safran à Mias. Un mot sur cette association, Corinne, l'AGIT.
Alors l'AGIT, c'est l'Association des guides interprètes du Tarn. C'est une association qui regroupe une quarantaine de guides diplômés et qui propose des visites guidées aussi bien pour un public constitué, un groupe, ou bien pour des individuels. Et tout au long de l'année, des visites sont proposées dans certains lieux du département du Tarn, et notamment samedi prochain à Mias pour une visite du village et une présentation du safran, puisqu'à Mias, il y a eu pendant très longtemps une culture de cette épicée-là.
L'histoire de Mias et le safran qui est cultivé dans cette région depuis le Moyen-Âge.
Voilà, c'est ça. Dans cette région du Quercis, c'est-à-dire dans la zone autour de Mias et de Bruniquel également. Et aujourd'hui, il y a une association qui regroupe un certain nombre de producteurs pour entretenir et maintenir cette culture du safran dans la région.
C'est en partenariat avec une association lotoise, hein, cette visite.
Oui, alors le siège de l'association est à Cajar dans le Lot, mais elle regroupe plusieurs producteurs de la région, dont cette famille qui vit à Mias.
Donc c'est l'association des safraniers du Quercy,
voilà, à Cajar. Voilà, c'est l'association des safraniers du Quercy à Cajar qui organise régulièrement des animations autour de cette épice.
Le choix de faire cette visite maintenant, il n'est pas non plus anodin, parce que le safran, c'est actuellement là.
Voilà, c'est ça. C'est à cette époque que la fleur qui produit le safran, le Crocus sativus, est en fleur. C'est une fleur qui ressemble au colchique et elle est en fleur à cette période-ci. Et donc c'est pour cette raison que nous avons choisi de proposer la visite à la fin du mois d'octobre.
Donc durant la visite, voir des safrans en fleur, il faut savoir que la récolte se fait à la main. Hein. Là, j'ai vu
c'est un travail très long. Voilà, c'est ça, parce que la culture, la récolte se fait à la main et qu'ensuite il faut récupérer les stigmates de cette fleur pour obtenir le safran.
200 000 fleurs pour obtenir 1 kg de safran. Alors on comprend pourquoi c'est une épice qui coûte très cher.
Oui,
Oui, parce que outre l'aspect historique pur sur le safran, il y a non seulement une rencontre qui est prévue avec les producteurs de safran actuels, hein, parce qu'il en reste toujours des producteurs de safran.
Il en reste quelques-uns dans cette famille qui vit sur la commune de Niers et qui, à la suite de la visite de samedi après-midi, proposera une présentation de l'épice et une dégustation de produits comme des biscuits, des sirops préparés à base de safran.
Pour réserver, il me semble qu'il y a un numéro de téléphone.
Oui, alors il y a un numéro de téléphone pour la réservation. C'est le 06 51 80 96 71, pardon.
71. Ok, puis bon, de toute façon, pour plus d'informations, il y a le site internet de la gîte.
Lesguidesdutarn.com.
Voilà, c'est ça. Donc, balade comptée autour du safran sur la route de Miars. C'est le samedi 25 octobre à partir de 14h30. Rendez-vous devant la mairie. Merci Corinne pour cette information et puis bonne balade samedi prochain.
Merci.
L'histoire de Miars, pardon, racontée autour de son histoire, de l'histoire de ce village médiéval avec le safran. Miars se situait dans le sud-ouest a été une haute terre de culture du safran, Ève.
Oui, tout à fait, puisque de nombreux textes anciens citent comme première région de production du safran en France et peut-être même en Europe, l'Albigeois, puisque du 12e au 18e siècle, on y produisait 200 quintaux de safran par an. Ce qui fait presque 10 tonnes.
10 tonnes, hein. Ouais.
Le quintal de l'époque était de 49 kilos. Ben, rapportez-les à mes petits 400 grammes, c'est vraiment énorme. Donc on pense que absolument tous les paysans du coin devaient avoir un carré de safran pour arriver à la collecte à faire de telles quantités annuelles. Et à tel point qu'il y a des traces de safran dans tout le Tarn. Hein. Par exemple, il y a un lieu-dit la Safranière à la Crouzette, qui est pourtant plutôt dans le sud du département. Il y a une rue du Safran à la Vore. Donc on pense qu'il y avait là des courtiers. C'est tout ce que nous on a maintenant l'habitude d'appeler le Tarn, mais qui à l'époque était identifié comme l'Albigeois, qui était une très grosse région de production. Et d'ailleurs, la cuisine du Tarn recèle des traces de safran dans tout un tas de vieux plats.
Oui. Mais comment on explique cette décroissance au niveau de la production de safran dans la région? On n'en trouve plus?
Eh bien, en fait, j'ai un vieux texte qui date de 1759 où le subdélégué à l'intendant du Languedoc explique l'arrêt de la culture en Albigeois en 1755 par le fait qu'il y a eu une grande famine dans tout le sud de la France et qu'en fait, on a eu du mal à nourrir la population. Et de ce fait, on a remplacé la culture du safran par une culture céréalière de blé. Tout simplement, puisque, je le dis avec mes mots, mais c'est à peu près la teneur du texte, le blé a pris le prix du safran tout en étant bien plus indispensable. Donc, on a demandé aux safraniers de bien vouloir planter du blé à la place du safran. Et il a été très compliqué après la famine de faire repartir la culture du safran une fois que les terres étaient déjà ensemencées en blé.
Actuellement, est-ce que vous percevez un regain d'intérêt de la culture du safran en France?
Oui, c'est la mode, on peut le dire. Oui, hein, voilà. Il y a toutes sortes d'émissions sur le safran. Alors, la première chose mise en avant, c'est toujours le prix du kilo, dont je rappelle que nous n'en voyons jamais de kilo. Mais en fait, c'est difficile aujourd'hui d'en faire une vraie activité agricole comme ça l'a été autrefois, parce que c'est pas mécanisable vraiment de manière intéressante. Et puis c'est une culture qui offre peu de débouchés en réalité. Hein. C'est une épice réservée à des gourmets qui, ma foi, sont plus tout à fait aussi nombreux qu'avant. Donc en quelque sorte c'est une plante élitiste. Donc c'est difficile de revenir à des grandes cultures, etc. Mais ceci dit, il y a encore des bonnes fourchettes et des fines bouches dans le Tarn et elles savent reconnaître la qualité du safran.
Bon, les vertus du safran. Bon, c'est utilisé en gastronomie comme une épice, mais il y a également des vertus médicinales.
Tout à fait. Donc, celle qui a le vent aux poupes actuellement, puisque c'est aussi la maladie du siècle, c'est ses vertus d'antidépresseur, en fait. C'est un antidépresseur puissant et sans effet secondaire. Donc, il y a plusieurs laboratoires qui commercialisent des gélules au safran contre la dépression, dont un à Toulouse. Et je précise que dans les gélules, c'est du safran iranien. Sinon, c'est un analgésique aussi intéressant, puisque, par exemple, certains produits qu'on met sur les gencives des bébés quand ils font leurs dents sont des sirops de safran. Mm-hmm. Puisque, toujours pour la raison qu'il n'y a pas d'effet secondaire, on peut le donner aux nourrissons sans problème. C'est aussi un antispasmodique. Et ça ferait baisser la tension.
Pas mal pour toi ça, Clément.
Quoi ? Oui.
Ouais. Ça fait baisser la tension, ce serait pas mal pour toi. Merci beaucoup Eve pour toutes ces précisions.
Avec
et une fois de plus, merci à vous deux d'être venus dans nos studios, nous éclairer sur cette belle plante. Je trouve qu'il y a énormément à dire, non seulement c'est sur sûr. L'histoire de cette plante et la région, mais également sur son utilisation, sur les différents produits que l'on peut consommer à base de safran. Et je pense qu'on se reverra... à l'occasion, après la récolte, pourquoi pas, pour discuter du nombre de grammes, du nombre de
avec
kilos,
plaisir.
Du nombre de tout ça. Merci d'être venu dans ce magazine. Rentrez bien tous les deux. Et puis, aux auditeurs, je vous dis à demain pour d'autres actualités dans le Tarn.